Instant Japon vous est aujourd'hui présenté par Simon Martin et Dominique Buisson, spécialiste du Japon, écrivain et photographe dont vous pourrez bientôt apprécier le travail dans un documentaire sur Arte. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre le thème abordé le mois dernier avec Christophe Jubien sur les couleurs, et plus particulièrement sur les couleurs dans le théâtre japonais. Le théâtre japonais, un domaine qui ne manquera pas de nous surprendre, j'en suis sûr, comme tout ce qui concerne le Japon par ailleurs. Bonjour Dominique Buisson.
Bonjour.
Alors, dans le théâtre, le costume est l'élément qui frappe le plus le spectateur, puisqu'il permet d'identifier les rôles. Qu'en est-il au Japon ?
Bien, dans le monde d'illusion qu'est le théâtre, il faut souvent exagérer les effets pour les rendre plausibles et compréhensibles immédiatement. Parfois même au point de s'écarter délibérément de la réalité. C'est le cas au Japon, où dans toutes les formes de théâtre traditionnelles, les rôles féminins sont tenus par des hommes. Dans ce registre, et comme les rôles peuvent être interprétés par des hommes mûrs, voire même âgés, pour une question d'expérience, seul le costume peut donner la clé du personnage qu'on voit sur scène. D'où un ensemble de codes très précis et une symbolique propre. Et je précise par exemple qu'un vieil acteur de 90 ans, par exemple, qui peut jouer une jeune fille.
Ah oui.
Il en aura toute la délicatesse du jeu, parce qu'ils ont une vraie expérience, mais évidemment, son physique de visage ne permettra pas de... Et c'est là que la couleur intervient pour dire « c'est une jeune fille ».
Alors, voilà. Rappelez-nous d'abord les principales formes de ce théâtre traditionnel japonais. J'en suis sûr qu'ils sont extrêmement différentes de ce qu'on peut concevoir en Occident.
Alors, c'est assez différent dans la mesure où au Japon, comme dans beaucoup de pays dans le monde, d'ailleurs, on n'a pas encore séparé le jeu dramatique, la danse, le chant, etc., comme on a fait chez nous, dans le théâtre, l'opéra, la danse, de manière séparée. Donc ça, c'est important à
dire.
C'est
un spectacle total.
Voilà, là, c'est un spectacle total. Et heureusement, au Japon, ce théâtre total s'adresse à chaque... Il y a un théâtre pour chaque partie de la société, on va dire, pour simplifier. Chaque classe de la société a son théâtre, donc il y a un théâtre forcément pour le petit peuple des rizières et celui des villes, un théâtre religieux qui raconte la vie des divinités shintoïstes, un théâtre pour l'aristocratie impériale, un théâtre pour les guerriers et enfin un théâtre pour les citadins de l'époque Edo. Bien sûr, il y aura ensuite toutes les tentations théâtrales de l'Occident dès la fin du XIXe siècle et le théâtre d'avant-garde qu'on appelle aussi post-Hiroshima. Donc, outre les danses agraires de repiquage du riz ou les danses de prière pour la pluie, qui sont les premières formes de théâtre populaire, ces formes sont des formes de paysans qui font ce qu'on appelle des sarugaku, c'est-à-dire des danses de singes, autrement dit des bouffonneries, qui ponctuent les grands moments de la vie agricole. Ces pantomimes donneront ultérieurement les bases, d'ailleurs, du très sérieux théâtre no.
Et on peut encore voir aujourd'hui des danses, des formes de théâtre de cette sorte dans les campagnes ?
Oui, ça
se poursuit alors, oui.
Oui, oui, donc on les appelle plus nécessairement sarugaku ou dengaku, comme on le faisait autrefois, mais on a encore ces versions populaires, souvent dans des villages un peu reculés dans les montagnes quand même. Les danses religieuses, elles, les danses rituelles, qu'on appelle divertissement des dieux, ce qu'on appelle aussi les kagura, sont des moyens pour faire comprendre la généalogie des dieux et raconter leur vie. Elles se pratiquent en général dans les sanctuaires directement, et ça depuis le 5e siècle. Viennent ensuite en ordre de complexité les danses et musiques de cour, importées du continent chinois entre le 6e et le 8e siècle. Le premier spectacle importé est ce qu'on appelle le Gigaku. Je peux même vous dire, en confidence, qu'il a été introduit en 612. C'est la première forme de théâtre scénique, vraiment de théâtre, quoi, qui mêle le divertissement dansé à la chinoise ou à la coréenne et des pantalonnades. Parce que tous ces théâtres d'origine étaient quand même un petit peu rigolos. On y joue ces pièces généralement à l'occasion des fêtes bouddhiques. Arrive ensuite la forme un petit peu plus sérieuse, mais qui ressemble beaucoup, ce qu'on appelle le bugaku, et son accompagnement musical qu'on appelle le gagaku. C'est avec ce théâtre dansé, plus sérieux et raffiné, qu'apparaît vraiment l'idée de symbolique des couleurs. Alors, là, on est à la cour.
D'accord, alors sous quelle forme ?
Alors les danses bugaku qui viennent de Corée, de Chine, d'Inde, d'Indochine et du Tibet, perdent très vite leur origine exotique pour devenir le bugaku typiquement japonais pendant la première moitié du Xe siècle. En passant, il a complètement disparu du continent chinois et n'est plus pratiqué qu'au Japon. Comme son nom l'indique, bu, danse, et gaku, musique, le bugaku ne contient pratiquement pas d'éléments dramatiques. Les costumes ne relèvent donc pas d'un caractère à expliciter, comme on l'a dit au début, mais d'une stylisation qui vient souligner la beauté de mouvements d'ensemble. En fait, ce sont des mouvements dansés qui opposent deux camps. Chaque camp voit ses danseurs répartis de manière très claire pour que ce soit compréhensible. Facile à identifier, il y a le clan des rouges et le clan des verts. Les rouges, et toutes les combinaisons colorées qui vont avec le rouge, écarlate, bordeaux, brun rouge, pourpre, or, etc., sont toujours situés à gauche. Alors à gauche, il faut vous imaginer à la place de l'empereur, à la gauche de l'empereur. Ils représentent les danses issues de Chine et d'Inde. Les verts, jaunes, verdâtres, bleus, bleu foncé, jaune et argent sont donc à droite et représentent les danses issues de Corée et de Mandchourie. Le rouge est donc, comme couleur dominante, positif et chaleureux. Il est nécessairement donc associé à la Chine, the pays, le grand pays. A l'inverse, le vert est négatif et froid, ça sera donc la Corée. Déjà à l'époque, c'était comme ça. Outre la différence de puissance politique entre la Chine et la Corée, c'était surtout une manière de bien compartimenter les choses et de répondre à ce que vous connaissez, le yin et le yang. Ça, c'est vraiment la pensée chinoise qui oppose des notions comme ça.
Alors nous allons parler d'une autre forme de théâtre que peut-être en Occident, la seule dont nous avons entendu parler, c'est le fameux théâtre no, qui nous paraît d'une étrangeté incroyable. Pour avoir vu quelques images, on est sur une autre planète là.
Oui, quelquefois même ça peut être très soporifique quand on n'a pas les...
Et ça peut être très long, hein, c'est ça aussi.
Ça peut être très long. Mais enfin, rien à voir avec le kabuki qui peut être encore plus long. Je le dis tout de suite, mais quand on le verra tout à l'heure, mais un spectacle de kabuki, ça peut durer 11 heures.
Hein. Oui, d'accord.
Mais on est encore loin du marabata indien qui peut durer plusieurs jours. Donc le no, revenons au no, il atteint son apogée vers le milieu du XVe siècle. Donc c'est un théâtre qui arrive assez tardivement, mais encore fallait-il que les guerriers prennent le pouvoir et puis s'approprient une certaine forme de théâtre. C'est véritablement là une forme de théâtre. Même si, selon l'habitude japonaise, le chant, la danse et le drame ne sont pas séparés. C'est à cette époque, donc XVe siècle, que les danses de singes que j'ai citées tout à l'heure, danses paysannes, se transforment en représentations scéniques sous l'égide de quelques dramaturges de talent, dont Kan Ami et son fils Ze Ami. Ça, c'est les grands des grands des grands. Hein, ce sont les incontournables dramaturges du Japon. Ze Ami, sans conteste, fut le plus grand. Il conféra au no la densité mystérieuse de ses drames, mais aussi le raffinement de la musique, des attitudes et des costumes.
Alors qu'est-ce que raconte ce théâtre guerrier ?
Bien évidemment des histoires de guerriers. Hein ? Mais des guerriers morts, le plus souvent lors des grandes batailles des siècles précédents. Les seigneurs du XVe siècle étaient très cultivés et chacun avait sur ses terres un théâtre doté d'une importante collection de costumes, de masques et d'instruments de musique, ce qui n'empêchait pas d'ailleurs ces seigneurs très raffinés d'être plus que féroces sur
évidemment, ouais.
Les champs de bataille. Vers le milieu de l'époque Edo, on va dire pour simplifier le XVIIIe siècle, là pour le coup on est en période de paix imposée, le no reçoit sa forme actuelle, basé sur des règles strictes et calculées pour plaire à un public très exigeant. Non seulement au niveau des livrets, puisque là on raconte des histoires de l'histoire du Japon.
Donc il faut avoir des références obligatoirement pour comprendre.
Pour le no, oui. Voilà, ouais. Pour le no, oui. D'autant que la plupart des rôles, ce sont des esprits qui viennent raconter des histoires. Donc déjà, il faut combiner cette idée typiquement japonaise qu'on est toujours à la bascule entre le surnaturel et le réel. Bon, déjà, ça peut déstabiliser un petit peu les esprits cartésiens. Mais en plus, ça raconte des histoires extrêmement précises, des batailles très très précises, dans des lieux très précis. Donc il faut avoir une vraie connaissance. Mais les guerriers l'avaient. Les guerriers de haut rang, évidemment, hein, l'avaient. Alors, ce qui nous intéresse, nous, là, aujourd'hui, ce sont les costumes.
Les costumes, oui.
Parce que ce sont les costumes qui vont porter les codes et donc la couleur. Le shogun ou le seigneur offrait souvent ses propres costumes aux acteurs méritants. Donc très très vite, la garde-robe des acteurs de théâtre no va être une garde-robe absolument somptueuse, faite la plupart du temps dans des étoffes très rares, la plupart du temps issues de Chine. C'est ce qu'on appelait les soies damassées, hein, d'où leur nom d'ailleurs de tissage chinois. Hein, en japonais, ça se dit karaori, donc tissage chinois. Ce sont ces costumes qui vont élaborer leur propre symbolique. Cette symbolique, d'ailleurs, qu'on retrouve de manière patente dans les costumes de femmes, puisque là, dans le no, encore une fois, dans tous les théâtres japonais, seuls les hommes jouent. Il n'y a pas de femmes qui jouent.
Ah, il n'y a pas de femmes du tout.
Non. Donc, tous les rôles féminins sont tenus par des hommes. Dans le no, les hommes sont masqués, parce qu'il faut bien un visage féminin.
Dans le kabuki, ces fameux masques très, très étonnants, hein, qui peuvent très déstabilisants, hein, pour le spectateur.
Oui, un peu, d'autant que c'est un masque qui est plus petit que le visage, oui, pour grandir le corps. C'est un masque qui est incurvé à l'inverse de la courbure normale, qui aurait tendance à envelopper le visage, comme dans le masque à l'italienne. Là, l'acteur doit pouvoir regarder ses pieds. Tout se passe au niveau, beaucoup de choses se passent au niveau des pieds. Donc il faut qu'il puisse regarder et à travers le trou des yeux et en même temps vers ses pieds. Donc le masque a une forme assez étrange.
Et on se prive de toute l'expression du visage pour transmettre le message au spectateur également.
Alors là, c'est encore quelque chose de typiquement japonais. C'est la gestuelle qui dit. La gestuelle, mais même une femme en kimono, c'est la gestuelle qui parle.
C'est la gestuelle qui
parle.
C'est
pour ça qu'on est dans un pays de non-dits.
La gestuelle est donc les valeurs symboliques des couleurs qui sont...
Voilà. Il faut quand même retrouver tous les codes. Donc, par exemple, pour les costumes de jeunes femmes, qu'on appelle hiro-iri, ce qui signifie pourvu de rouge, donc ça dit bien, le code, c'est le rouge. À l'inverse, une vieille femme, on va dire que ce sera hiro-nashi, ce qui veut dire dépourvu de... Donc, dépourvu de rouge, en fait, ou dépourvu même de couleur, hein. L'emploi du rouge pour symboliser la jeunesse et donc d'un effet saisissant sur scène. Il ne faut pas oublier aussi qu'à l'époque, le théâtre se joue à la lumière des braseros. Il n'y a pas les spots. Hein. Donc on est avec une lumière vacillante, toujours, les lanternes et les braseros.
Il faut donc, beaucoup de contraste. Et puis
Très très important, évidemment, d'avoir quelques couleurs qui accrochent. Au niveau d'action, on veut rester sur les personnages féminins. Les jeunes ont des doublures rouges et les personnes plus âgées auront des doublures violettes, bleu foncé ou brun-rouge.
Voilà. Alors, cette symbolique des couleurs, elle s'applique aussi bien sur le col des kimonos, sur les rubans de ceinture, les rubans d'image. J'imagine chaque détail est réfléchi et a un sens.
À la limite, même chaque micro-détail. Le col du sous-kimono. Imaginez l'ensemble d'une personne habillée, le col c'est tout petit. Mais le spectateur sait que s'il veut comprendre qui est sur scène, il faut qu'il se dirige vers ce truc-là. De même que le ruban qui tient le masque, lui aussi il a plein d'indications. Il y a des petites ceintures aussi qui sont accrochées sur le kimono, qui elles aussi vont indiquer plein de choses. Enfin, restons dans le simple. C'est donc le col, on va dire, le plus important. Il est un signe distinctif entre homme et femme, jeune, vieux, fort, faible, noble, vilain. Donc, il a vraiment une valeur centrale. Les couleurs de col les plus fréquentes vont être le blanc, le bleu clair, le bleu foncé, le rouge, le vert, l'orangé et le brun jaune. Donc, voilà, il faut déjà, en tant que spectateur, qu'on ait intégré ces multiples nuances, finalement. Et quelquefois, donc, il y a même deux couleurs de col. On peut avoir deux cols superposés qui vont donner une sous-nuance. Donc on va les prendre une par une pour les principales.
Alors commençons par le blanc.
Alors le blanc ne s'applique qu'aux dieux et aux déesses. Et donc à l'empereur et aux membres de sa cour, puisque l'empereur descend des dieux. Chez les personnalités d'exception, comme un général d'autrefois tombé au combat, ou de nobles chevaliers, les cols, dont les combinaisons de blanc et de bleu pâle et de bleu, vont permettre justement de descendre un tout petit peu l'importance du personnage. Les combinaisons de blanc et de rouge, de blanc et de bleu pâle, vont échoir à des personnages légèrement inférieurs, comme des dames de cour, des jeunes nobles, ou des créatures féminines surnaturelles, voire des sorcières.
Le bleu.
Le bleu clair est porté par des rôles masculins de rang inférieur. Guerriers, moines, prêtres shinto, courtisans de second plan, villageois. Et parfois, il est attribué à des femmes, mais particulièrement infortunées, comme des folles. Eh oui. Les cols bleus et bleu foncé ne sont portés que par les hommes, guerriers, moines, courriers impériaux, serviteurs, dieux inférieurs. Et plus la différence est marquée entre les tons clairs et les tons foncés, plus le rôle est caractérisé oui, avec force.
Toute la gamme des nuances est, compte oui. également. Oui. Alors, le rouge.
Alors, le rouge, on l'a dit, est réservé au rôle féminin, au rôle d'enfant aussi. Parfois, des rôles secondaires tenus par des adolescents. Le col rouge est donc porté par des dames d'honneur, des pêcheuses de perles, des prêtresses shinto. Combiné avec le blanc, il symbolise des personnes de rang supérieur, femmes de général, déesses, voire l'empereur lorsqu'il est adolescent.
Le vert ?
Le vert, c'est tout bêtement la couleur des gens de basse condition. Les villageois, les marchands, les serviteurs, les pêcheurs.
Et enfin, vous avez parlé de l'oranger.
Alors l'oranger, c'est la couleur portée par les femmes d'un certain âge, donc des dames de cour plus âgées, des femmes de chasseurs. Le terme pour oranger est kuchiba, ce qui signifie feuille fanée. C'est joli, hein ? Quant au brun jaune, qui désigne vraiment la couleur des feuilles mortes, il est réservé au seul rôle de moine. Toutes ces couleurs donneront le ton pour la forme de théâtre traditionnel du peuple, le kabuki.
Le kabuki que nous allons voir dans un instant après une petite pause musicale. Instant Japon sur Radio Grand Ciel avec notre spécialiste du Japon, Dominique Buisson. Alors juste avant la pause, nous allions aborder le kabuki qui est la forme traditionnelle du théâtre japonais.
Oui, alors plus particulièrement celui des citadins. Les citadins des grandes villes. On a vu le nom, le théâtre des guerriers, la deuxième grande puissance de l'époque Edo, donc cette période qui va de 1603 à 1868, époque de paix. Hein, la deuxième, et qui ne va pas tarder à devenir la première puissance réelle, c'est celle des grands marchands, des citadins. Hein. Donc, eux vont vouloir leur théâtre aussi. Donc, à l'origine, ce kabuki est un passe-temps des peuples des villes. Il vient des exhibitions qui étaient données dans les lits des rivières à sec, hein, comme par exemple en été, la rivière Kamo à Kyoto. Et il a été créé plus particulièrement au début du XVIIe siècle par une prêtresse danseuse de sanctuaire qui s'appelait Okuni. Et cette Okuni, qui était chargée de récolter des fonds pour le sanctuaire, a très vite monté une troupe et elle s'est mise à singer les jeunes guerriers lorsqu'elle se produisait sur scène, donc elle s'habillait en homme, et elle singeait les jeunes guerriers. Alors ça amusait tout le monde. Et puis très vite, sa troupe ne va pas tarder à attirer l'attention des autorités à cause de sa débauche. Parce qu'évidemment, dans ce genre de spectacle qui était un petit peu atypique, on n'était pas loin de choses qui étaient très courantes à l'époque, qui étaient la prostitution ou en tous les cas des choses assez licencieuses. Donc de fait, les autorités vont très vite interdire aux femmes de jouer. Alors il faut savoir que... Si on interdit aux femmes de jouer, par quoi les remplace-t-on ? Bon, on avait sous la main un certain nombre de jeunes éphèbes qu'on va enrôler pour les remplacer. Mais ça ne va pas changer grand-chose. Et donc, très très vite, les autorités vont instituer que les hommes, et seuls les hommes d'âge mûr, pourront jouer des rôles de femmes au théâtre. Donc même dans le kabuki, qui est un théâtre populaire, les femmes seront donc interdites de jeu. Il va falloir donc créer un acteur spécialisé dans les rôles de femmes et qui va avoir d'ailleurs une puissance évocatrice très 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 forte au niveau même des dames qui vont copier leur attitude, leur gestuelle, leur costume, leur maquillage, tellement ils vont être adulés par la société. Enfin bon, ce kabuki, on va revenir à la couleur quand même, ce kabuki ne reçoit absolument aucune aide de la classe dirigeante, contrairement à toutes les autres formes de théâtre précédentes.
Oui, parce qu'il est arrivé un petit peu en opposition. Si
voilà,
j'ai compris.
Il était carrément même méprisé. Théâtre du peuple, allons donc. Et donc, évidemment, les beaux costumes, aucun seigneur va donner ses costumes aux acteurs de théâtre. Comme en plus, il était totalement proscrit d'utiliser les costumes de samouraï sur scène, puisque ça aurait été une critique directe de la société dirigeante, ça va pousser les responsables des costumes à créer, à inventer même des costumes particuliers. Ouais. Voilà. Y compris ceux des guerriers, parce qu'ils vont représenter quand même des guerriers et des seigneurs, mais dans des costumes complètement réinventés. De fait, cette fantaisie, cette grande liberté dans la création des costumes, va trancher avec la rigidité un petit peu d'une autre époque, ouais. Hein, du théâtre des guerriers.
Oui, alors expliquez-nous ça.
Alors, l'un des traits les plus marquants du kabuki, c'est son caractère direct. Les gens qui vont au kabuki n'ont pas nécessairement de la culture, donc il faut que ça soit compris directement. Il faut que ça soit simple à comprendre, mais en même temps, c'est la logique japonaise, il faut que ça soit bien codé. Plus c'est codé, plus il est facile d'interpréter.
Ça, on commence à comprendre.
Voilà, la logique. C'est en faisant un petit circuit de côté, un petit pas de côté, les mangas, par exemple, c'est la même culture. Les mangas, c'est hyper, hyper codé. Il faut savoir immédiatement qui est qui et ce qu'ils pensent sans avoir besoin de réfléchir. Le théâtre kabuki, c'est exactement ça. Donc, on ne va pas se contenter de positions très simples, élémentaires, comme dans le no, jeune, vieux, homme, femme, etc. Il faut que toutes les nuances possibles de conditions sociales, de tempérament, de valeurs morales soient exprimées et comprises du public. Par exemple, parmi les nombreux fonds de teint utilisés, puisque là, on n'a plus de masque.
D'accord.
C'est un maquillage qu'on appelle le kumadori, hein, qui veut dire creuser les ombres, d'ailleurs, en passant. Donc, ce maquillage, si vous voyez un acteur qui arrive, qui a le visage tout rouge, bon, tout le monde sait que c'est un fourbe. Un fourbe de bas étage, même. Il en va de même avec ce qu'on appelle l'aka-hime, la princesse rouge. C'est nécessairement une jeune femme de naissance noble, d'autant qu'en plus, c'est facile à comprendre, elle porte le kimono à longues manches, en brocart rouge, orné de cerisiers, de nuages, de rivières et d'éventails, savamment entretissé de fils blancs, d'or et d'argent. Enfin, donc voilà, ça va avec. Mais ce qui compte, c'est le maquillage aussi.
Et là, le visage va pouvoir être expressif un petit peu ou
alors,
pas du
pas
tout,
du tout.
Pas du tout, il reste figé comme un masque, quoi.
Il y a toujours cette idée de masque blanc.
Ouais, d'accord.
Et c'est sur le masque, c'est ce qui va être indiqué sur le masque. La jeune femme, elle, va rester, comme toutes les jeunes femmes japonaises, avec un masque d'absence. C'est sa gestuelle.
C'est sa gestuelle.
C'est la danse, c'est la capacité à danser. Pour tous les rôles masculins, directement, que ce soit les fourbes, les grands seigneurs, les beaux, les grands, les vailleureux et tout ça, là, il y aura des dessins colorés sur le fond blanc. C'est la grosse différence. Donc, quand ces costumes vont vouloir exprimer toutes les notions particulières de personnages, les répertoires qui sont particulièrement les répertoires qui sont basés sur la vie des citadins, les petits citadins. Là, il faut savoir, on n'a plus le costume qui différencie un guerrier d'un grand seigneur. Là, c'était clair autrefois. Là, les gens du peuple sont tous habillés de plus ou moins de la même façon. Ouais. Donc, il va falloir trouver aussi là tout un ensemble de sous-nuances de manière à ce que ce soit bien compréhensible. Alors, dans les drames qu'on appelle les Jidai Mono, les drames historiques qui mettent en scène la vie des classes supérieures, comme les nobles et les guerriers, pour éviter d'avoir la censure, on va rejeter l'histoire dans un passé lointain, ce qui va autoriser à pas mal de fantaisies, d'ailleurs. Et pour être complet, entre ces drames historiques de seigneurs, les drames de petits peuples qu'on appelle les Sewa Mono, il existe une troisième catégorie de pièces qu'on appelle les Shosa Mono, et qui sont des pièces dramatiques, mais essentiellement dansées. Il n'y a pratiquement pas d'histoires racontées. Hein, c'est essentiellement de la danse. Et c'est dans les deux derniers cas, donc le théâtre des seigneurs et le théâtre dansé, la symbolique des couleurs va s'appliquer de manière la plus extraordinaire.
Alors ces couleurs, on les a vues dans le théâtre nous, est-ce que ce sont les mêmes symboles ?
Alors pas tout à fait. Il y a des couleurs qu'on va retrouver, hein, comme le rouge par la féminité par exemple, hein. Mais il y a aussi la gradation des teintes allant du foncé au clair ou des tons chauds allant vers des tons froids qui soulignent les degrés d'énergie des caractères ou qui marquent l'opposition des sexes. Hein, je vais vous en donner quelques exemples. Par exemple, le blanc. Le blanc désigne la noblesse. Ça, avec le ça n'a pas changé. La dignité, les hommes droits. Ce qui autorise les gens du peuple à être droits. Donc, on rajoute là une petite catégorie. Les acteurs sont donc principalement habillés de blanc. Le visage est maquillé de blanc, essentiellement aussi. Mais s'il y a quelques rides bleues, ça implique que le personnage que l'on voit soit un noble, puisqu'il est en blanc.
Oui.
Mais le bleu va nous dire que c'est un noble démoniaque. Si les soulignements sont rouges, ça veut dire que c'est un personnage qui est puissant ou vertueux. Par contre, si la barbe et les rides sont noires, là, on sait qu'on est chez un méchant. Donc, c'est facile. Là, en plus, c'est un théâtre qui est très, très expressif, le kabuki. Donc là, ça va être facile. Le maquillage, c'est un maquillage qui se voit de très, très loin. Il est très, très marqué. Le rouge, encore une fois, le rouge, symbole de féminité et de jeunesse, comme dans le no. À propos de ça, je précise que le rouge, il a un intérêt global dans son usage, c'est qu'on use du rouge de préférence pour les vêtements qui sont en contact avec la peau. Les sous-vêtements, d'abord c'est plus joli, ça permet de souligner le vêtement de dessus d'ailleurs, les pagnes, les doublures de kimono, tout ça, tout simplement parce qu'on attribuait au suc de béni, qui était la plante qu'on utilisait pour faire les teintures, on attribuait une vertu curative. Donc, pour tous les gens qui travaillaient, qui transpiraient, où il y avait d'irritation, on utilisait plus particulièrement du rouge.
Alors, poursuivons avec ces couleurs, le noir.
Alors, le noir, c'est les personnages qui sont vêtus d'une charge importante, en particulier les dames d'honneur d'un certain âge. Et c'est aussi le synonyme de néant. Et un des aspects particuliers du théâtre kabuki, ce sont les kuroko. Les kuroko sont des gens qui sont habillés entièrement en noir, qui viennent intervenir sur scène pour souffler. Les acteurs peuvent aussi manquer de mémoire. Ce sont des valets de scène qui aident à changer de costume, etc. Donc le noir, il a cette valeur-là aussi. À l'inverse, le bleu, il symbolise la mer. Dans les pièces historiques, comme dans les pièces dansées, la fille du pêcheur, par exemple, va porter un kimono bleu. Mais il y a une autre valeur intéressante, c'est le bleu clair qui s'applique aux hommes élégants et courtois, alors que le bleu foncé symbolise une forte personnalité. Le vert, qui est très proche du bleu, c'est quand il est clair et nuancé de jaune, il a la même fonction que le bleu clair, mais plus basiquement, c'est l'expression d'une fille de campagne. Donc c'est simple, c'est facile à comprendre. Enfin, il reste le pourpre, qui est une couleur qu'en général on réserve aux personnes de rang suprême, à part quelques emplois particuliers. Et un des rôles très sympathiques du théâtre, c'est Sukeroku. Sukeroku, c'est un petit peu le bandit d'honneur un peu de chez nous. Hein. Et lui, il porte un bandeau bleu. Il n'est pas fou. Il n'est pas malade, comme indique théoriquement généralement le violet, mais c'est un personnage qui est exalté parce qu'il veut venger la mort de son père, donc il est proche de la folie sans être fou. Voilà, je conclurai avec lui, qui est le personnage le plus sympathique du théâtre kabuki pour ce petit tour en couleur dans le théâtre traditionnel japonais.
Merci beaucoup Dominique Buisson, nous voilà armés pour assister au théâtre no ou bien kabuki. Et l'on se retrouve le mois prochain pour continuer notre exploration de l'univers japonais. À très bientôt.
Au revoir.